Bible, l'Évangile, dans les Évangiles, mais dans le Nouveau Testament, pardon, dans la première épître de Paul, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il n'y en a qu'une, hein, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Philippiens chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ainsi est donc la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons de nous guider dans ta parole, d'illuminer nos cœurs, nos pensées par ton Esprit Saint, afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Amen. Donc les versets qui vont nous intéresser ce matin sont verset 3 jusqu'au verset 5. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et on se rappelle que quand Paul écrit cette épître, il est en prison. Il est à Rome. Il écrit à des chrétiens qui sont à Philippe, une église qui a commencé. On peut voir les débuts de cette église dans Actes chapitre 16, lorsque Paul arrive à Philippe. Et puis, une église qui grandit, hein, et à laquelle il écrit. Et il n'y a pas, quand vous lisez cette lettre, je vous encourage à la lire en entier si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est très court, 104 versets, ce n'est pas beaucoup. Et on voit que c'est une église que Paul aime, il y a des difficultés, hein, on va le voir, il dit des choses dans cette église, mais il n'y a pas de reproches, de problèmes graves qu'il met en avant, et c'est une église qu'il chérit. Verset 8, il dit « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Donc c'est une église qu'il aime, et c'est une église qui aime aussi l'apôtre Paul. Et les versets 3 jusqu'au verset 11 constituent la prière de Paul pour cette église. On commence au verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous. » Il montre son attitude dans cette prière, sa joie qu'il a, sa confiance en Dieu pour l'œuvre commencée dans leur cœur. Et puis au verset 9, il donne le contenu de sa prière. Il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Puis il va jusqu'au verset 11. Et à partir du verset 12, il parle d'autre chose. Donc on a les versets 3 jusqu'au verset 11 constituent sa prière. On pourrait dire le verset 3 jusqu'au verset 8 exprime sa reconnaissance. Il commence avec sa reconnaissance. Je rends grâce à Dieu. Et puis ensuite, à partir du verset 9, on pourrait dire qu'il présente, qu'il forme des requêtes spécifiques pour l'église de Philippe. Donc Paul indique ici qu'il prie constamment pour tous les chrétiens de Philippe. Vous voyez ça, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières, dans toutes mes prières, qu'il ne cesse de prier pour eux, dans toutes mes prières et pour vous tous. Hein. » Donc il prie pour tous les chrétiens de Philippe, et il prie continuellement pour tous les chrétiens de Philippe, et il rend grâce, premièrement, à Dieu pour tous les chrétiens de Philippe. Et il dit qu'il le fait avec joie, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Et quel est, si vous voulez, ce qui constitue cette reconnaissance joyeuse? Eh bien, c'est le fait que, il le dit ici, que les chrétiens de Philippe prennent part à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il se réjouit, il rend grâce à Dieu parce que les chrétiens de Philippe prennent part à l'évangile depuis le début jusqu'à maintenant. Et donc le titre de notre méditation ce matin, c'est « Prendre part à l'évangile » ou « La joie de prendre part à l'évangile ». Qu'est-ce que prendre part à l'évangile? Parce que Paul dit ici que Il est réjoui dans son cœur à cause de cette prise de participation des chrétiens à l'évangile. Eh bien, prendre part à l'évangile, c'est d'abord, je crois, recevoir l'évangile. Prendre part à l'évangile, c'est premièrement, d'abord, recevoir l'évangile. La prière, on pourrait dire, reconnaissante et joyeuse de Paul concerne ceux qui prennent part à l'évangile, à la communion de l'évangile, ceux qui ont l'évangile en partage. Et il dit qu'ils le font, il est dans la joie parce qu'ils ont pris, ils prennent part depuis le commencement jusqu'à maintenant. Donc il y a eu un moment où cela a commencé. Ils n'ont pas toujours été des participants de l'évangile. Et donc le mot qui est utilisé pour participants, pour prendre part, c'est le mot qu'on utilise parfois ailleurs pour la communion. Donc, il rend grâce à Dieu pour leur communion à l'évangile. Et quand on parle de communion, c'est que l'on a quelque chose en commun. Tout à l'heure, en venant ici, je montre à ma femme, sur la route, il y avait deux déesses. Parce que si vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est qu'une déesse. Mais c'est des vieilles Citroën anciennes. Et il y a des gens qui ont la passion pour les déesses. Et il y avait certainement, on avait l'impression que ces deux personnes se dirigeaient vers un lieu où il y aura un rassemblement de personnes qui ont en commun, une affection, mais un intérêt pour la déesse. On pourrait dire qu'ils ont en partage la déesse. Eh bien ici, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont en partage l'évangile. Mais se pose quand même une question, qu'est-ce que l'évangile? Si vous deviez répondre à cette question, que diriez-vous? Quand l'apôtre Paul dit qu'ils ont en partage l'évangile, de quoi est-ce qu'il parle? Il y a des mots qu'on emploie parfois avec beaucoup de facilité, et on pense connaître le sens de ces mots jusqu'à ce que quelqu'un nous demande ce que ça veut dire. Et là, on se rend compte qu'on a du mal parfois à répondre. Alors, imaginez que quelqu'un vous attrape et puis vous dise, mais dites, tu parles de l'évangile, mais c'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que ça veut dire, l'évangile? Quelle est la définition de l'évangile? Comment définiriez-vous l'évangile en quelques mots? Juste en quelques mots. Vous n'avez pas beaucoup de temps, quelques minutes avec quelqu'un, qu'est-ce que vous dites concernant l'évangile? Peut-être qu'on pense parfois, on dit l'évangile, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ça, c'est une exigence, une conséquence de l'évangile, mais ça n'est pas l'évangile. Peut-être on dirait aussi que l'évangile consiste à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Mais c'est une, ça, c'est la réponse à l'évangile. Ça n'est pas l'évangile en lui-même. Et on voit que ces deux premières choses que je viens de dire ici, ces premières réponses, donnent une définition de l'évangile qui est centrée sur l'homme. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ou bien on dit ici tu dois croire, etc. Donc c'est centré sur ce que l'homme doit faire. Mais l'évangile n'est pas centré sur l'homme. L'apôtre Paul, hein, on a dans la Bible, il donne la définition, mais il dit déjà à l'épître aux Romains qu'il est serviteur de Jésus-Christ, il a été appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les saintes écritures, et il ajoute, et qui concerne son fils. Donc l'évangile ne concerne pas, si vous voulez, en premier chef, à ce que les hommes doivent faire, mais l'évangile concerne Jésus-Christ, son fils. Et on dira que l'évangile est christocentrique, centré sur Jésus-Christ. Et nous avons, l'apôtre Paul donne, vous vous rappelez de cette épître, de la première épître aux Corinthiens, il donne une définition, un concentré vraiment de ce que c'est que l'évangile. Et il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Vous voyez, donc il parle de ce qu'il a annoncé, il dit les effets que cela produit, et après un peu plus tard, il définit, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et ça, c'est, on pourrait dire, ça c'est un résumé de l'Évangile. Il concerne Christ, concerne son œuvre, sa mort expiatoire, et puis sa résurrection. Quelque part, il dira que Christ est ressuscité pour notre justification. Et tout cela selon les Écritures, tel que cela a été annoncé dans les Écritures. Donc Christ, sa mort expiatoire, son ensevelissement comme preuve de sa mort, sa résurrection, et puis ses apparitions comme preuve de sa résurrection, il dit ici, constituent des faits historiques, bibliques, théologiques de l'Évangile. Et donc, si on veut donner une définition rapide, c'est ici qu'il faut regarder. Donc, l'Évangile, il le montre aussi, exige une réponse hein, de la part de ceux qui l'entendent. L'Évangile n'est pas un fait historique neutre. Hein. Par exemple, quand on dit que la France a remporté la Coupe du monde de football en 1998, ou que c'est loin, c'est un fait historique. D'accord ? Mais c'est un fait historique neutre, c'est-à-dire ça ne changera rien à la face du monde, ni dans votre vie, je crois. Hein? Parfois on oublie même ce que ça a été. Que l'on croit, que l'on n'y croit pas, ça ne changera absolument rien. Que l'on y pense, que l'on n'y pense pas, ça ne changera absolument rien. Peu importe. Cela, ça ne, il n'y aura rien qui va être modifié dans ma destinée. Mais il n'en est pas ainsi de l'Évangile. L'Évangile requiert une réponse. L'Évangile requiert une réponse. Il doit être cru hein, et parce qu'il y a un enjeu capital dans l'Évangile. C'est ce que Paul souligne lorsqu'il est à Athènes, vous vous rappelez, et qu'il prêche devant ce parterre de philosophes athéniens. Il parle de Dieu qui a créé le monde et puis il arrive assez rapidement et il dit que Dieu, au verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire qu'il faut une réponse à l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez, donc là, ça c'est un aspect de l'Évangile, hein, donc celui qui est ressuscité des morts, qui est mort et puis qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, eh bien, ce qui s'est produit là ne doit pas laisser indifférent. Il faut une réponse à cette œuvre qui a été accomplie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jugement qui est lié aussi à ce qui a été accompli dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'Évangile exige une réponse. L'Évangile exige la repentance et la foi en Jésus-Christ. L'évangéliste Marc dit, en parlant du début du ministère de Jésus-Christ, il dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous voyez donc, l'Évangile, ici qu'il prêche, exige que l'on se repente et que l'on croit à la bonne nouvelle. L'Évangile exige une réponse. Et l'Évangile aussi a des effets dans la vie. L'Évangile transforme la vie, l'Écriture est abondante, n'est-ce pas, quand vous lisez les textes, en exemple de vie transformée. Pensez à Zachée, par exemple, l'apôtre Paul lui-même, qui est un persécuteur, dit-il, de l'Évangile, et qui maintenant est un ministre de l'Évangile. Pensez aux Philippiens même, dont il est question ici. Et puis l'histoire du monde, quand on la regarde, on peut trouver beaucoup d'histoires de vie transformée. Et la vôtre, probablement, est l'histoire d'une vie transformée par l'Évangile. Donc la Bible affirme que le croyant est l'objet d'un processus de transformation, de sanctification, de perfectionnement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le passage que nous avons lu au verset 6. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Il y a un perfectionnement du chrétien qui est en cours. Donc l'Évangile a des effets aussi dans la vie. Et je vous lis cet extrait d'article qu'a écrit un théologien qui s'appelle Don Carson dans un article dont le titre est « Définir l'Évangile ». Il dit « Cet Évangile ne reste jamais une simple question de connaissance et de savoir, comme le démontre l'Épître aux Corinthiens. » Un christianisme qui ne produit pas des croyants patients et bons, mais des gens particulièrement jaloux, fiers et vantards, impitoyables, qui se mettent facilement en colère et gardent le souvenir des torts subis, n'est pas un christianisme du tout. Et Paul a jugé nécessaire, il dit, de souligner les effets de l'Évangile dans tous les domaines de la vie des Corinthiens. Et si vous lisez, vous vous rappelez, on avait étudié l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est une épître qu'on appelle une épître corrective. L'apôtre Paul passe beaucoup de domaines pour montrer de la vie pratique, pour montrer comment l'Évangile doit avoir des effets dans ces domaines pratiques. Et donc, lorsque Paul dit ici qu'il loue Dieu pour ses Philippiens et que son intercession est une intercession joyeuse à cause de la part qu'ils ont pris à l'Évangile depuis le commencement depuis le début jusqu'à maintenant, c'est qu'ils voient dans leur vie des effets, des changements produits par l'Évangile et des changements qui demeurent depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il y a eu un temps où ils n'étaient pas participants de l'Évangile, et maintenant ils le sont depuis le début jusqu'au moment où Paul écrit cette lettre. Et si Paul dit « depuis le premier jour », eh bien cela sous-entend que le premier jour était reconnaissable. Si on dit que quelque chose s'est passé depuis le premier jour, donc il y a un jour ce qui est devenu le premier, et ce jour qui est devenu le premier, il y a eu quelque chose qui a changé. Et si on pense au début de l'Église, eh bien, il y a eu Lydie, vous rappelez, la marchande de pourpre, qui s'est convertie. Il y a eu, avec la Bible dit, avec sa famille, Actes chapitre 16. Et puis aussi à Philippe, il y a eu le geôlier dans la prison qui s'est converti aussi avec sa famille. Et certainement, on peut penser que ces choses sont encore dans l'esprit de Paul. Il se souvient de cette petite réunion près de la rivière avec ces dames et puis le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie. La Bible dit, il dit qu'une femme nommée Lydie était là, elle écoutait Paul et le Seigneur lui a ouvert le cœur, le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle puisse être attentive à ce que Paul disait. Et puis le texte dit qu'elle a été baptisée, donc elle a cru, elle a été baptisée. Puis c'était la même chose pour le geôlier dans la prison. Et c'était le commencement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce commencement? Eh bien, il y a eu du changement dans leur vie. Parce que Lydie a ouvert son foyer et elle a insisté pour que Paul vienne chez elle. Et puis, le geôlier a ouvert aussi sa maison, vous vous rappelez, il l'a invité, il a soigné les plaies de Paul et Silas, et puis il les a emmenés dans son foyer. Il y a eu un changement qui a marqué que l'évangile est entré dans ces cœurs-là. Et Paul, il loue Dieu parce qu'il dit, eh bien, ces changements, ce qui a été produit dès le commencement, il voit jusqu'à maintenant la continuation de ces choses-là. Parce que ce sont des gens qui ont reçu Christ dans leur vie. Donc, prendre part à l'évangile, c'est d'abord recevoir Christ dans son cœur. C'est comme Lydie et comme le geôlier. Prendre part consiste en premier lieu à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de prise de participation à l'évangile avant de recevoir Christ dans son cœur. L'apôtre Paul dit, quand il donne la définition de l'évangile, il dit l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvé. Et puis après, il ajoute, si vous le retenez, donc dans lequel vous avez persévéré, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. C'est exactement ce qu'il met en évidence ici dans la vie des Philippiens. Ils ont cru, ils ont reçu, ils ont été transformer cette transformation continue jusqu'à maintenant. Deuxièmement, je voudrais dire que prendre part aussi à l'évangile, c'est contribuer fidèlement à la cause de l'évangile. Prendre part à l'évangile, c'est contribuer fidèlement à la cause de l'évangile. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'évangile a des causes ou des besoins qui doivent être soutenus. Si vous lisez dans l'Épître, chapitre 1, verset 5, il parle donc de prendre part à l'évangile. Chapitre 1, verset 7, ici l'apôtre Paul parle de la défense et de la confirmation de l'Évangile, chapitre 1, verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » L'Évangile a besoin de progresser, de se propager. Et puis, il a besoin d'être défendu, verset 16, hein, ceux qui agissent, il parle de personnes qui agissent par amour, sachant, il dit que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Hein, c'est de l'apologétique, on pourrait dire, ici. Et puis, un peu plus tard, verset 27, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Il y a une conduite qui sied à l'Évangile et celui qui professe être un enfant de Dieu, un chrétien, doit vivre d'une manière digne de l'Évangile. Il y a un combat pour la foi de l'Évangile, verset 27, toujours à la fin du verset 27, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ici, chapitre 2, verset 22, il dit, vous savez, il parle de, je crois qu'il parle de Timothée ici, il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Donc il y a un service de l'Évangile, d'accord, ceux qui sont à Christ. Et puis chapitre 4, verset 3, il dit, et toi aussi, fidèle collègue, je te prie, il parle de Saint-Tiche et vous dit qu'ils ont une difficulté. Il dit, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile. Il y a un combat, comme on a vu déjà un peu plus tôt, qui existe, dans lequel le chrétien doit être engagé pour l'Évangile. Et puis, à la fin, verset 15 du chapitre 4, il dit, vous savez vous-même, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, il y a besoin que l'Évangile soit annoncer que l'Évangile soit prêché. Tout ça, plus encore d'autres choses, constitue, on pourrait dire, les causes et les besoins de l'Évangile. Et donc, sans doute, Paul, quand il parle de la prise de participation des Philippiens, il pense à tout ce qu'ils ont fait pour contribuer à la cause de l'Évangile. Prendre part à l'Évangile, c'est embrasser la cause de l'Évangile. Paul disait aux Corinthiens, J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile. Il ajoute « afin d'y avoir part », hein, afin de participer à l'Évangile. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Mais on pourrait se poser la question, comment pratiquement cette participation a-t-elle eu lieu? Comment cette participation des Philippiens à l'Évangile s'est-elle concrètement manifestée? Qu'est-ce que les Philippiens ont fait pratiquement et dont le souvenir produit une telle joie chez Paul? On peut trouver plusieurs choses, mais je pense qu'il y a premièrement la contribution matérielle. Quand on regarde cette église, elle a, c'est une église qui a contribué matériellement, financièrement, au soutien de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, il écrit cette lettre pour les remercier pour un don qu'ils viennent de lui faire par Épaphrodite. Hein, si vous regardez au chapitre 2 quoi, et au verset 25, il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de croix pourvoir à mes besoins. » Puis il s'étale un petit peu plus longuement là-dessus au chapitre 4 et au verset chapitre 4, verset 10, où il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Et verset 18, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc, Paul, ici, exprime sa reconnaissance aussi pour les dons qu'il a reçus de la part des Philippiens. Et donc, prendre part à l'Évangile, c'est prendre part financièrement aussi aux besoins de l'Évangile. Et je crois que quand il dit cela ici, au verset 2, chapitre 5 que nous avons lu, on pourrait dire que c'est essentiellement à ce que l'apôtre vise ici. Il est dans la joie à cause de cette participation financière. Non pas pour l'aspect financier proprement dit, mais pour tout ce que cela dit. Hein, pour lui, regardez au verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Pour lui, cette manière de s'associer à l'Évangile est une œuvre de grâce qui se produit dans le cœur. Et il montre que cette Église a toujours eu ce souci de prendre part de cette manière à ses besoins. Il dit par exemple, chapitre 4, verset 15-16, il dit « Vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » C'est une Église qui a continuellement pourvu à ses besoins. Ils l'ont fait au tout début, d'accord, puisque à Thessalonique, c'était juste après qu'ils soient partis de Philippe. Ils ont soutenu financièrement l'apôtre Paul. Et puis, un peu plus tard, l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, maintenant, il dit aux Corinthiens qu'il n'a jamais rien exigé d'eux. Il dit « Je n'ai jamais été à votre charge. J'ai travaillé même, il dit, pour ne pas être à votre charge. » Mais il dit ceci, il dit « J'ai dépouillé d'autres églises » dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez eux et que je me suis trouvé dans le besoin, » et Paul s'est trouvé financièrement dans le besoin, il dit « Je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine, » là il parle de Philippe, hein, d'accord, « les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. » Il a travaillé, des faiseurs de tentes, mais ce n'était pas suffisant. Et il dit « Quand les frères sont venus de Macédoine, eh bien, ils ont pourvu à ceux qui lui manquaient. » Et là, il a pu se donner totalement à son ministère. Et maintenant encore, il parle de ce don qu'il vient de lui envoyer par Épaphrodite. Donc ici, l'apôtre Paul souligne, je crois, que Prendre part à l'Évangile, c'est contribuer fidèlement à la cause de l'Évangile, mais y contribuer parfois et souvent d'ailleurs matériellement. C'est une église qui aimait prendre part aux besoins des autres. 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul dit, parle d'eux, il dit « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement ». Ça c'était pour une autre situation, pour les chrétiens de Judée qui étaient dans la difficulté. Il parle des Philippiens, il dit « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, en nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part, on a encore notre même participation ici, prendre part à l'assistance destinée aux saints. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 3 et 4. Ils ont demandé la grâce. Paul, laisse-nous participer au soutien des frères de Judée. Et Paul souligne cela à chaque fois qu'il a l'occasion. Donc l'Évangile, pour se propager, chers frères et sœurs, a besoin de s'appuyer sur des hommes, sur des moyens techniques. Et c'est participer aussi à l'Évangile que de contribuer financièrement à son progrès. Celui qui pourvoit aux besoins du missionnaire participe à l'œuvre de l'Évangile. Participe à l'Évangile. Et c'est la pensée que l'apôtre Jean aussi développe lorsqu'il parle à Gaius dans la troisième épître de Jean. Il dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » Il avait accueilli chez lui des étrangers. Et l'apôtre Jean dit à Gaius, c'est excellent ce que tu fais. Et puis il ajoute, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Il y a une manière de pourvoir aux besoins de ceux qui sont des itinérants et qui glorifient Dieu. Il dit d'une manière digne de Dieu. Et il ajoute, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Et nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité de l'Évangile. Donc quand on participe ainsi aux besoins de ceux qui sont envoyés, eh bien il dit, nous sommes des ouvriers avec eux. Nous participons dans le même ministère. Nous sommes des collaborateurs de l'Évangile lorsque nous faisons cela. Vous trouvez ça dans 3 Jean, versets 5 et 8. Donc je n'ai aucun doute que cette Église contribuait au progrès de l'Évangile aussi, bien sûr, pour Paul, mais dans sa propre ville. Ils ont fait pour Jérusalem, certainement dans sa propre ville, et subvenait aux besoins des nécessiteux aussi qui étaient même au milieu d'eux. Donc une contribution matérielle fidèle, mais aussi une contribution spirituel fidèle. On peut difficilement penser qu'une église qui soutient de cette manière-là néglige l'aspect spirituel. Ici, l'apôtre Paul dit, regardez au verset chapitre 1 et au verset que je trouve au verset 19, il parle de ceux qui lui causent du tort, etc. Mais il dit que Christ est prêché, même s'ils ne le font pas avec de bonnes intentions. Verset 19, il dit, et je sais, il dit, je me réjouis, je m'en réjouirai encore, verset 18, mais il dit, verset 19, je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à quoi? À vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il sait que cette Église la soutient financièrement, mais il sait aussi que cette Église prie pour lui. Et on pourrait dire ici que ici, cette Église prend part à l'Évangile aussi en contribuant spirituellement, en priant. Donc pour l'apôtre Paul, mais aussi en accomplissant d'autres, certainement en persévérant comme les premiers chrétiens dans les livres des Actes, dans l'enseignement de la parole, en persévérant dans la fraction du pain et aussi dans la communion fraternelle. Elle priait pour l'apôtre et pour le progrès de l'Évangile. Et l'apôtre Paul sait qu'il peut compter sur la prière des Philippiens. C'est ce qu'il dit, par exemple, à Philémon, il dit, « Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Il est conscient qu'il y a des chrétiens qui prient pour lui et qu'il en a besoin, et que Dieu utilise cela. Et c'est prendre part à l'Évangile que de prier les uns pour les autres. C'est quelque chose qui est très important. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre... » Il est en prison quand il dit ça. « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Donc, vous voyez la connexion ici? Il dit « Vous êtes là-bas, vous priez et c'est comme si vous participez ici à l'annonce de l'Évangile. » Parce que quand vous priez pour que, quand j'ouvre la bouche, l'Évangile puisse être annoncé dans cette prison, librement et hardiment. Donc il y a une connexion entre le fait de prier et de prendre part à la propagation de l'Évangile ici. Et donc, important pour nous de prier. On entend parfois, je ne sais pas quel est mon rôle dans l'Église. Je fais rien dans l'église et je me sens vraiment inutile. Pourquoi les gens disent ça? Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église? Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église? La prière pour ceux qui sont envoyés, pour ceux qui sont au milieu de nous, les uns pour les autres, est un ministère de participation à l'Évangile. Et pourtant, quand on regarde, combien sont vides nos réunions de prière? Combien sont vides nos réunions de prière? Je me souviens, lorsque Pierre était en... Le livre des Actes nous le montre, lorsque Pierre était en prison, la Bible dit que toute l'Église était en prière pour Pierre. Oui, nous pouvons... nous plaindre de ne pas avoir des choses à faire parce que ne faisons pas ce que la parole nous enseigne de faire ici. Et je crois que ce que Paul dit ici, il montre que participer, ces chrétiens participaient à l'Évangile en priant pour lui. Il demandait même de participer de cette manière-là. Et nous avons un ministère dans notre vie individuelle, et dans notre vie collective en tant qu'Église, un ministère dans la prière. Il y a la volonté de Dieu que nous participions à l'Évangile, que nous prenons notre part à l'Évangile dans la prière, les uns pour les autres. Est-ce qu'on le fait? On pourrait le faire avec nos petits carnets, on note les noms des personnes qui sont dans des besoins particuliers, même si nous ne sommes pas dans des besoins particuliers, on peut louer Dieu, on prie, on loue Dieu pour les uns, pour les autres. Vous voyez ce que Paul fait? Il y avait des difficultés quand même dans cette église, parce qu'il parle d'Évodie et Saint-Tiche qui ont des problèmes, il leur demande que leurs pensées soient de telle manière, il leur demande de ne pas murmurer, donc ça veut dire qu'il y avait des choses, mais il loue Dieu pour tout ce qu'il voit dans leur progrès. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Cela nous éviterait tellement... la critique que nous pouvons porter, des fois, les uns par rapport aux autres. Si nous demandions au Seigneur dans la prière d'ouvrir nos yeux, afin que nous voyons son œuvre dans la vie des autres. C'est cela, aussi, prendre part à l'Évangile. C'est dans la prière que l'apôtre Paul évoque tout ce qu'il dit sur les Philippiens. C'est dans la prière reconnaissante que les yeux s'ouvrent davantage sur la réalité de l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. Pourquoi? Parce que dans la prière, ce n'est pas tellement l'autre qui a besoin de changer, plutôt moi. C'est moi qui suis transformé quand je prie. J'arrive à mieux voir, mes yeux s'ouvrent, à être plus sensible aux choses spirituelles. D'accord? Et puis, je demande pour les autres, non pas que Dieu leur casse la patte, qu'il les brise, mais qu'il leur fasse grâce, je les présente devant le trône de la grâce. Et c'est bon de le faire individuellement. C'est un devoir qui nous incombe. Mais c'est bon de le faire aussi collectivement. Et c'est là aussi un devoir qui nous incombe, chers frères et sœurs. C'est un devoir qui nous incombe. Il faut prier les uns pour les autres, mais il faut aussi prier les uns avec les autres. Et cela se fait dans des réunions, quand nous nous retrouvons ou quand nous venons dans le lieu de culte. Et puis, Paul souligne, on notait aussi, je voudrais juste dire qu'il souligne la fidélité avec laquelle les Philippiens le faisaient. Il dit, ils le font depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Prendre part à l'évangile, c'est prendre part fidèlement aussi à l'évangile. Paul ne dit pas, vous voyez, il ne rend pas grâce à Dieu pour ceux qui ont pris part au commencement à l'évangile. Il rend grâce à Dieu pour ceux qui prennent part depuis le commencement jusqu'à maintenant. Parce que ceux qui ne continuent pas, c'est ceux qui n'ont jamais commencé. Parce qu'il dit plus loin que ce que Dieu a commencé, il le mènera à perfection. Donc, la vie chrétienne n'est pas qu'un commencement, c'est un commencement, mais avec une continuation. C'est une persévérance. Et c'est cette persévérance qui témoigne de la réalité de la foi, parce que cette persévérance vient de Dieu. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et Jésus soulignait cet aspect quand il disait « Lequel d'entre vous veut bâtir une tour hein? ?» Il dit, il s'assoit, il fait les calculs, et puis il voit s'il a de quoi commencer, parce que les gens vont se moquer de lui, ils vont dire « Cet homme, il a fait quoi ? Il a commencé et il n'a pas pu achever. » Il montre que la vie chrétienne n'est pas une question de commencement, mais un commencement, continuation qui va jusqu'à la glorification. Et c'est ça qui est le signe que c'est l'œuvre de Dieu. La véritable participation à l'évangile est persévérante. Et puis, troisièmement, donc, on dit premièrement que prendre part, c'est d'abord recevoir l'évangile, prendre part, c'est aussi contribuer fidèlement à la cause de l'évangile. Et troisièmement, prendre part à l'évangile, c'est partager ses joies, mais aussi ses souffrances. On trouve cela dans cette épître. L'apôtre Paul dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, chapitre 1, versets 29 et 30, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez que je soutiens. Prendre part à l'évangile, c'est communier aussi aux souffrances de l'évangile. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de beaux jours, des chrétiens du soleil. Et puis quand c'est l'hiver, quand c'est froid, on a un petit peu plus de mal. Eh bien, l'apôtre Paul dit que les chrétiens, ici la Bible nous montre que les chrétiens sont des chrétiens de tous les jours. Hein. On le voit depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et quand il y a des joies, il y a des joies, mais quand il y a des souffrances, il y a aussi des souffrances. Et celui qui est en Christ, eh bien, il accepte le tout. Et même il y a de la joie au milieu de la souffrance. Il y a de la joie au milieu de la souffrance. Et donc nous voyons dans cette épître que Paul appelle les Philippiens à combattre, à ne pas être effrayés. Il y a de la difficulté. Et il dit que celui qui prend part à l'évangile doit aussi accepter cet ensemble de choses. Et certainement, c'est ce qu'il a vu chez ces Philippiens. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ne se sont pas laissés démoraliser par les tribulations. Et même quand il écrit aux Corinthiens, il dit qu'ils étaient au milieu de grandes afflictions. Et à travers ces grandes afflictions, ils ont quand même donné pour les besoins de l'église de Jérusalem. Il dit au sein de leurs grandes afflictions. C'est comme ça qu'il le dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et il y a toujours eu des adversaires, n'est-ce pas, de l'évangile. Il y a toujours eu des difficultés, que ce soit à cette époque, que ce soit dans la nôtre. Les difficultés sont différentes. Et nous pouvons être tentés souvent de baisser les bras, mais prendre part à l'évangile, c'est partager à la fois les joies, mais aussi les souffrances de l'évangile. L'apôtre Pierre dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Au Corinthiens, l'apôtre Paul disait que si nous avons part aux souffrances, nous aurons aussi part à la consolation. N'est-ce pas ? Et donc, prendre part à l'évangile, c'est prendre part aussi aux souffrances de l'évangile. Et je vais terminer avec quelques applications, avec une question peut-être. Quelle part prenons-nous à l'évangile? Quelle part prenons-nous à l'évangile? Est-ce juste la part du dimanche matin durant 2 heures? Ou est-ce que nous prenons véritablement part à l'évangile? Prendre part à l'évangile est coûteux. Je ne peux pas vouloir l'évangile, la Bible nous le dit, sans payer le prix. Le prix en temps, le prix en communion avec les autres, le prix en intercession, le prix en soutien matériel. On veut croître parfois, mais sans s'exposer à l'enseignement de l'Écriture. On veut aimer, mais on ne veut pas participer à la communion. Comment puis-je aimer des personnes avec qui je ne suis pas en communion? L'apôtre Paul exprime dans cet épître le désir de voir. Il envoie Épaphrodite, il dit, il désire vous voir. Il écrit aux Romains, il dit, je désire aller vous voir. Il était toujours dans le désir de voir les autres. Et quand il signe, quand vous lisez la fin de l'épître aux Romains, vous voyez toute la liste de noms qu'il souligne, il dit, salut un tel. Il les connaissait. Il avait une relation avec les gens. Et nous ne pouvons pas vouloir aimer et en même temps nous tenir à l'écart de la communion avec les autres, des rencontres avec les frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible. L'évangile, prendre part à l'évangile, c'est coûteux et c'est exigeant. Je voudrais faire voir aussi qu'il y a un lien étroit, d'après ce que l'on voit ici, entre la foi et l'engagement des biens matériels pour la cause de l'évangile. Paul dit, à un moment donné, il dit, je ne recherche pas vos dons. Il dit, ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour vous dans le quatrième chapitre de cette épître. Et donc, il fait le lien entre cette attitude qu'ils ont à l'égard des biens et la réalité de la foi. Ce qui est fait, on pourrait dire, par eux, avec leur bien matériel, sur le plan matériel, c'est une évidence de ce qui est fait en eux, sur le plan spirituel. Ce qui est fait par eux, avec leur bien matériel, c'est une évidence de ce qui est fait en eux, sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il dit, j'exprime ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce que vous faites, c'est parce que dans votre cœur, il y a une œuvre. Et il dit, les biens, ces biens-là, je les reçois avec joie. Il dit, mais moi, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Ce n'est pas une question d'argent, de matériel. Mais c'est le fruit que je vois en vous, c'est ça qui me remplit de joie. Parce que ce que vous faites est intimement lié à une réalité spirituelle qui est vécue au-dedans de vous. Et donc, on dit souvent que l'on mesure la spiritualité de quelqu'un en regardant son carnet de chèques. C'est vrai, il faut le reconnaître pour nous-mêmes. Ce dans quoi nous investissons, c'est là où notre cœur se trouve. Et il y a donc un lien étroit entre la foi et l'engagement des biens matériels pour la cause de l'évangile. Et puis, je veux dire que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas que nous soyons des missionnaires dans des pays lointains, mais que nous prenions part efficacement à l'évangile pour qu'il se répande. Et de toutes les manières qu'il soit, matériel, spirituel, que nous nous investissions pour que l'évangile se répande. Et puis, dernièrement, je dirais que prendre part à l'évangile procure une joie réelle. Ce que Paul dit ici, procure une joie réelle aux autres. L'apôtre Paul était dans la joie à cause de cette prise de participation persévérante des Philippiens dans l'évangile, la cause de l'évangile. Mais je crois que c'était la joie aussi des Philippiens. Il les poussait à se réjouir même de cela. Cette joie a été celle des disciples, hein, les apôtres, quand ils ont participé même avec des coups. Hein, vous vous rappelez, lorsque, je crois que c'était Pierre et Jean, ils ont été battus par les gens du Sanhédrin. La Bible dit qu'ils sont partis joyeux d'avoir été jugés dignes de recevoir des outrages pour le nom de Christ. Ils étaient joyeux pour cela. Et cette joie, c'est celle que l'on voit dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, pour tous les croyants qui se tournent vers Dieu. Le geôlier, la Bible dit qu'il s'est réjoui avec sa famille. Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien, il est retourné chez lui, la Bible dit qu'il était joyeux, il a repris sa course. L'apôtre Paul, ici dans cette épître qu'on appelle l'épître de la joie, il encourage les chrétiens à se réjouir. Et je voudrais lire en conclusion ce commentaire de John MacArthur. Il dit « Le chrétien qui abandonne volontairement la communion avec les autres croyants sera inévitablement dépourvu de joie véritable, de la joie véritable que donne l'Esprit. Car il est impossible de vivre fidèlement dans la joie en marge des autres croyants en Christ. Mais le croyant qui fréquente régulièrement d'autres saints, en assumant les responsabilités qu'exige et que procure une telle communion, sera tout aussi sûrement rempli de joie divine. Fréquenter ceux qui sont cohéritiers avec Christ, des gens qui s'aiment, se comprennent, se soucient, se soutiennent dans la prière les uns les autres, qui travaillent en combattant ensemble le bon combat, c'est assurer une joie abondante et durable. » Je crois que c'est fondamentalement vrai. L'apôtre Paul, du fond de sa prison, déborde de joie parce qu'à 1300 kilomètres de là, il y a des chrétiens qui persévèrent depuis le commencement jusqu'à maintenant dans la prise de participation de l'Évangile. Parce qu'ils persévèrent dans la communion les uns avec les autres. Parce qu'ils persévèrent dans l'évangélisation, l'annonce de l'Évangile. Parce qu'ils prient les uns pour les autres. Parce qu'ils s'investissent financièrement dans l'Évangile. Et cela le remplit de joie, même s'il ne peut pas être au milieu d'eux. Il se réjouit et il désire être au milieu d'eux. Que le Seigneur nous conduise dans ce sens. Quelle part prenons-nous à l'Évangile? Si l'apôtre Paul devait nous écrire, dirait-il, « Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous tous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le début, depuis le commencement, jusqu'à maintenant. » Ou dirait-il, il y a eu un temps où vous avez semblé prendre part, mais voilà, les soucis de la vie, le travail, les occupations de votre société moderne, avec ses écrans, ses amusements, font que vous prenez part à autre chose. J'espère que non, chers frères et sœurs. Et ce que je vous dis, je le dis à moi-même en premier, parce que je sais combien il est facile d'oublier toutes ces choses et de donner notre cœur à autre chose qu'à l'Évangile. Mais le Seigneur ne nous a pas rachetés, si vous êtes un enfant de Dieu, pour avoir part à autre chose qu'à l'Évangile. Et quelle que soit notre profession, ce que nous faisons, et si tous les gens n'étaient pas des missionnaires chez Philippe, Lydie était marchande de poupre, un autre était gardien de prison, mais ils ont eu part, et ils ont continué à avoir part à l'Évangile. Et si vous ne connaissez pas Christ, eh bien, il faut venir à lui. L'Évangile exige une réponse. L'Évangile n'accepte pas, ne permet pas la neutralité. Il exige que vous vous repentiez et que vous croyiez en Jésus-Christ. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et il a donné la certitude de cela en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce envers nous et pour ta fidélité. Tu es patient et nous te louons pour cela. Nous te remercions pour tous ceux que tu as rachetés. Te prions pour ceux qui sont ici encore ce matin et qui ne se sont pas repentis, ne se sont pas tournés vers toi. Qu'aujourd'hui soit pour eux le commencement, le premier jour de cette prise de participation à l'Évangile. Et que par ta grâce, tu agisses en eux pour qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Seigneur, que ton esprit nous éclaire et nous interpelle sur notre propre vie à chacun. Et nous montre comment nous devons marcher encore davantage avec toi, dans l'obéissance à ta parole. Instruis-nous, nous te prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.